Je vous invite à suivre l'émission Dialogue entre Congolais avec Alain Héro.
Bonsoir, thème unique dans cette émission, province orientale. Le commandement des opérations des FARDC à Dungu regrette la non-implication des autorités politiques dans la restauration de l'État dans les localités jadis occupées par les rebelles de la LRA. Comment expliquer ce retard dans le processus de restauration de l'autorité de l'État et que faire pour un rétablissement rapide et effectif? Nos invités dans cette émission sont Raymond Ramazani Baya, sénateur MLC. Il est en ligne. Bonsoir, honorable.
Bonsoir.
Dieudonné Bakungu, député national PPRD, il est avec nous dans ce studio. Bonsoir, honorable.
Bonsoir, monsieur le journaliste.
Professeur Mbwebwa Kalala, politologue et professeur à l'Université catholique de Kinshasa, il est aussi en ligne. Bonsoir, et bonsoir. Avec nous dans ce studio.
Bonsoir, professeur. Bonsoir.
Merci et bienvenue à tous dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
En province orientale, le commandement des opérations des FARDC à Dungu regrette la non-implication des autorités politico-administratives dans l'opération Rudia, qui consiste à traquer les rebelles ougandais de la LRA. Selon le commandant second chargé des opérations à Dungu, tous les appels lancés en faveur de la restauration de l'autorité de l'État, notamment par l'envoi des policiers dans les milieux sécurisés, demeurent sans effet. Néanmoins, le gouverneur de province affirme que des dispositions sont en train d'être prises pour régler ce problème. C'est un reportage d'Anselme Massois depuis Dungu.
Ce regret a été exprimé à la radio Okapi le samedi dernier au regard des difficultés que prouve le commandement de la zone opérationnelle de Dungu. Selon le commandant second de cette dernière, depuis le retrait de l'armée ougandaise le 15 mars dernier, fin des opérations de la traque de LRA par la coalition des armées, le FARDC se voit aussi dans l'obligation d'assurer le maintien de l'ordre, rôle dévolu à la police. Les 600 policiers demandés au gouvernement sont toujours attendus, dit-il. Toujours selon la même source, la restauration de l'autorité de l'État traîne. La plupart des chefs de groupements, de secteurs et de chefferies déplacés suite aux exactions LRA n'ont pas encore regagné leur juridiction déjà sécurisée. Face à cette préoccupation militaire, le gouvernement de la province orientale déclare qu'il va prendre contact avec les autorités de la police et le commissaire de district du Haut et Bas-Zélé pour régler ces questions de maintien de l'ordre et de réhabilitation des pouvoirs coutumiers. Depuis Dungu Centre, en fin de Massoua, Radio Cap.
Voilà, vous l'avez compris, hein, depuis Dungu, la qualité de la ligne n'est pas très bonne. Veuillez nous en excuser. Sénateur Raymond Ramazani Baya, comment expliquer ce retard, hein, d'après vous, dans le processus de restauration de l'autorité de l'État dans cette partie du pays? Sénateur?
Militaire qui lance ce cri d'alarme. Généralement, on parle de la grande muette lorsqu'on parle de l'armée, parce qu'on entend très peu les officiers dire leur mécontentement. Là, apparemment, c'est le ras-le-bol, je crois. Ça, c'est la première conclusion que je tire de la déclaration de cet officier. Ensuite, cela signifie simplement qu'on ne peut pas gagner cette guerre, qui est une guerre de guérilla, par une armée classique, parce que c'est pas une guerre classique. Donc, je comprends très bien que les FARDC souhaitent l'implication des autorités civiles, et notamment de la police. Il est un fait que dans les bases où il est, mais là il s'agissait du Haut-Ouélé, mais je connais la situation un peu mieux, dans les bases où il est, les effectifs de la police nationale sont terriblement réduits, trop faibles pour assurer une véritable présence, une véritable autorité de l'État. Elle commence d'abord par la présence naturellement des forces de l'ordre, l'armée, les autorités civiles, politiques, administratives, mais naturellement aussi la police. Donc, moi, je comprends très bien le cri d'alarme poussé par cet officier pour que, rapidement, on puisse envoyer des policiers qui assurent le maintien de l'ordre dans le Haut-Ouélé, mais j'insiste, aussi dans les bases Ouélé, la situation, je crois, est même plus critique. c'est dans le Haut-Ouélé.
Honorable Dieudonné Bakungu, vous êtes député national PPRD. Vous venez de suivre le sénateur Ramazani Baya. Pour lui, c'est le ras-le-bol des militaires. Ils en ont assez au point de s'exprimer. Ça n'arrive pas tous les jours. Et puis, il attribue ce retard dans la restauration de l'autorité de l'État à la faible présence ou à la présence réduite de la police. À votre avis, qu'est-ce qui cause ce retard?
Merci beaucoup d'abord pour la question. Je pense que lorsque notre armée récupère certains endroits qui étaient jadis occupés par les rebelles, le premier sentiment pour la population, c'est de revenir vite. Parce que ce sont les endroits qui étaient occupés par des rebelles, maintenant que c'est au niveau maintenant de notre armée, nécessairement que la population devrait se précipiter. Mais je constate que dans ces conditions, si jusque-là il n'y a pas l'implication, moi je pense que ça peut être un problème de confiance. Je peux peut-être...
Confiance par rapport à qui, honorable?
Confiance peut-être par rapport à notre propre armée, parce que des fois il faut considérer que la situation qui se passe dans la province orientale n'est pas tout à fait différente de celle qui se passe par exemple dans le Nord Kivu, où nous avions constaté que des fois l'armée semble récupérer la place dès que la population se présente le soir. Ce sont les groupes armés qui viennent, pratiquement la population se trouve dans une situation où elle n'est plus protégée. Maintenant, pour moi, je constate que si jusque-là, la population ou même les autorités locales continuent à attendre, c'est pour voir si effectivement la situation qu'on vient de trouver ou bien qui vient d'être récupérée va avoir une vie longue. Moi, je pense que ça peut être ça. Donc, la crainte, est-ce que si nous revenons dans ces villages-là, demain après-demain, peut-être que ces gens-là peuvent encore revenir, et c'est la vie de personnes qui sont en danger.
Professeur Mbouéboa, vous êtes politologue et professeur à l'Université catholique au Congo. En cherchant la pacification de l'Est du pays, la pacification tend à arriver ou arrive déjà, et maintenant il se pose des problèmes pour réinstaurer l'autorité de l'État. Ne sommes-nous pas là en train de chercher la chose et son contraire?
Ben, je crois que c'est très clair. Notre pays a un problème sérieux, parce que chaque fois que l'on gagne un espace, quelques temps après, on apprend qu'il y a encore des forces qui viennent les prendre, qui viennent troubler l'ordre. Donc, il est important que le pouvoir public, à partir des provinces qui sont proches des réalités, jusqu'au niveau du pouvoir central, puisse être conséquent. Lorsque les hommes armés arrivent à gagner un territoire, qu'ils soient soutenus sur le plan logistique, et qu'on puisse mettre à leur disposition le nécessaire. Parce que parfois, lorsque les troupes sont au front, qu'ils ont conquis un territoire comme ça, et qu'ils ne sont pas soutenus, dans l'indiscipline, ils vont commencer à se servir des biens privés. Et à ce moment-là, la population va commencer de nouveau à avoir peur d'eux, alors que la population devrait se réjouir de l'arrivée de nos forces armées. Donc, il est important, à mon avis, que sur le plan logistique, le pouvoir public soutienne, n'est-ce pas, les hommes des troupes.
L'honorable Dieudonné Bakungu a parlé du manque de confiance entre l'armée et la population.
Bon, ça c'est de manière générale. Vous savez, quand il y a la situation des conflits, il y a la confiance qui est brisée dans tous les sens. Les militaires ne font pas confiance aux civils, parce que c'est parmi ces civils-là qu'il y a aussi ceux qui sont utilisés par les forces ennemies. Et la population ne fait pas confiance aux militaires, parce que, surtout dans les cas de notre pays, les militaires ont, par le passé, donné des mauvais exemples. Parfois, ils se sont servis sur la population. Et tout cela marque la population, et la population est un peu méfiante. Et c'est là aussi la part des autorités, des entités territoriales décentralisées. Donc tout à l'heure, quand on a suivi les reportages, on parle aussi des chefs de secteur, les chefs de collectivité. Ces gens-là incarnent l'autorité justement de l'État à ce niveau-là. Lorsque la population revient et que les autorités sont là, hein, ça montre quand même qu'il y a un signal, un pouvoir qui est là. Lorsque ces gens-là ne sont pas là, vous comprenez, ça, la population ne se sent pas vraiment en sécurité. Donc, c'est un problème sérieux. L'autorité de l'État, c'est une question concrète. Alors, les gens qui sont nommés dans des fonctions pareilles savent aussi, lorsqu'ils sont affectés dans des zones pareilles, que ça fait partie des risques de leur fonction.
Sénateur Raymond Ramazan Ibaya, il y a des auditeurs qui nous écrivent, notamment Jacques Ouzélé de Bounia, en Ituri, en province orientale. Il dit ce retard de la restauration de l'autorité de l'État à Dongou peut s'expliquer par le fait que le déploiement de la force de la police dans un milieu demande une préparation sérieuse en équipement, en rations, pour éviter les tracasseries de la part des policiers.
Oui, mais absolument, cela est vrai pour la police, comme pour les FARDC. Je retiens quelque chose d'important que mon collègue Diotrelé a dit tout à l'heure. La population n'a plus confiance. Bon, le problème de confiance, c'est pas simplement... C'est beaucoup moins de l'armée vers la population, c'est surtout la population qui n'a pas confiance à l'armée et force de l'ordre. Pourquoi ? Parce que je crois qu'il ne suffit pas simplement d'une présence physique, passive, mais il faut que ce soit une présence dissuasive et une présence protectrice. Mais pour que le soldat ou le policier puisse protéger, il faut qu'il soit armé, qu'il dispose d'un minimum de moyens de déplacement, qui assure sa mobilité, et qu'il soit rémunéré. S'il n'est pas rémunéré, il se nourrit sur la population. Cela c'est vu au mois d'avril, lorsque le ministre de la Défense a envoyé 36 militaires de Bouta à Dingila, c'est dans les bases où il est. Eh bien, ces militaires sont partis à pied sur près de 200 kilomètres, sans provisions et pratiquement sans munitions. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé ce qui devait se passer, c'est-à-dire qu'ils se sont nourris, ils se sont approvisionnés sur la population. Donc, plutôt que d'assurer la sécurité, ils ont semé l'insécurité sur toute leur route. Et jusqu'à présent, c'est un peu la même chose. Il en est de même pour la police, évidemment. Si on déploie la police, il ne suffira pas simplement de la déployer physiquement, il faudra l'entourer d'un minimum de mesures d'accompagnement, lui donner le minimum de moyens pour qu'elle s'alimente, lui donner le minimum de moyens pour qu'elle puisse agir et qu'elle soit dissuasive par rapport à tous ceux qui veulent semer les désordres.
Honorable Dieudonné Bakungu, il y a un autre auditeur, Kakuli de Kalimio Katanga, qui dit « Pourquoi notre gouvernement donne toujours l'impression d'être lent dans certaines circonstances nécessitant la prioritude et l'urgence? Aux problèmes urgents, il faut des solutions urgentes. Est-ce qu'on peut attribuer ce retard au gouvernement ?»
Je pense que notre auditeur a bien raison. Et si vous voyez très bien, là, on dit la restauration de l'autorité de l'État. Si on parle de la restauration, qui a le pouvoir ou qui exerce le pouvoir? C'est le gouvernement. Et lorsque le gouvernement constate que voilà, les forces armées venaient de récupérer une situation qui était jadis donc un coin qui était jadis occupé par les rebelles, par exemple. Mais dans le programme, le gouvernement devrait déjà penser à cela. C'est pourquoi moi j'ai dit souvent que dans notre pays, nous avons beaucoup d'improvisation. Donc quand on fait quelque chose, on ne pense pas au lendemain. On peut donner le petit exemple lorsque nous avions eu la Coupe d'Afrique ici. Imaginez-vous qu'ils n'avaient pas un programme pour recevoir notre équipe après la victoire. Et c'est la même chose avec le problème d'armée.
Mais vous êtes quand même de la majorité, du côté du gouvernement.
Comprenez que nous sommes de la majorité, nous avons un gouvernement. Nous sommes des élus du peuple et c'est notre gouvernement. Et lorsque nous parlons dans ce sens, pour que le gouvernement comprenne que quelque part, il y a des devoirs qu'il doit assumer. Ce n'est pas le rôle du député de faire ce que le gouvernement doit faire. C'est pourquoi, d'ailleurs, vous êtes au courant qu'il y a la séparation des pouvoirs. Je suis de la majorité, mais il y a la séparation des pouvoirs. Souvent, lorsque on parle par exemple, de la fonction de l'exécutif, ils nous disent non, vous, c'est pour ceci, pour le contrôle, laissez-nous faire, vous viendrez contrôler, et c'est ce que nous faisons.
Mais ce contrôle, comment vous l'exercez, comment, quelle impulsion vous donnez en tant que député de la majorité au gouvernement pour que ça puisse changer?
D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez suivi le débat d'aujourd'hui, nous avions reçu le ministre de la Défense lorsqu'il venait défendre la loi sur l'organisation de notre armée. Nous n'avions pas été vraiment très doux avec le gouvernement. Nous lui avons dit des choses. Nous avions dit que voilà, dans ces cas, il faut que l'armée soit vraiment une armée nationale. Et dans ces conditions, il faut que tous les sérieux y soient mis. Et notre auditeur, quand il dit cela, vraiment, je suis d'accord que le gouvernement doit faire vraiment attention, surtout lorsque vous vous rappelez, il y a l'exemple des démons qui sont chassés d'un corps de moi je suis chrétien. Il suffit de voir les conséquences qui arrivent par après. Hein, c'est 7 démons qui reviennent. Donc, dès que vous balayez la maison, il faut vite l'occuper pour que l'ennemi ne revienne et ne devienne beaucoup plus dangereux qu'avant.
Professeur Mbouéboua, que pouvez-vous ajouter à ce niveau du débat?
Moi, ce que je peux ajouter, c'est le fait que dans notre pays, nous ne sommes pas conséquents en général.
C'est-à-dire,
la sécurité, le maintien de l'ordre, ce sont des dépenses ou des obligations qui coûtent cher. Un pays ne peut pas vouloir avoir la paix, vivre en sécurité, se faire respecter s'il ne met pas assez de moyens conséquents à la disposition des services spéciaux. Nous avons la sécurité, nous avons la police, nous avons l'armée. Ces services-là doivent disposer pour facile à manier lorsqu'il y a un besoin. Et chez nous, chaque fois, on peut même budgétiser des fonds assez importants, mais pour les mobiliser, pour les sortir, le ministère des Finances, le ministère du Budget, souvent, ils ne comprennent pas. Vous avez des gens qui raisonnent, n'est-ce pas, en déconnexion avec ces gens des priorités qui sont plutôt des priorités fondamentales. Et à mon avis, c'est à ce niveau-là qu'il faut imputer, n'est-ce pas, le fait que nos services souvent manquent de moyens. Vous pouvez trouver la police, elle fonctionne, nous avons besoin de cette police dans les quartiers, un peu partout, mais allez voir comment les policiers travaillent. Souvent, ils travaillent sans moyens. Et c'est cette police-là qui travaille sans moyens, comment voulez-vous qu'elle puisse tenir, qu'elle puisse être motivée et qu'elle soit efficace pour rendre des services qu'on attend d'elle? Et donc, c'est à ce niveau-là, à mon avis, qu'il faut vraiment dénoncer ces comportements qui frisent un peu la complicité, un comportement qui frise parfois l'antipatriotisme, en quelque sorte, hein, parce que vous avez des gens, des responsables, souvent des autorités, qui devraient avoir les soucis, qui devraient comprendre. Et vous avez ces services-là, quand ils demandent de l'argent, on les traite comme si c'est leur argent, en fait, on ne voit pas la nécessité, hein.
Donc ça, c'est ça le problème. Professeur Mbouéboua, il y a cet auditeur Claude de Kinshasa qui dit « Pour que la sécurité soit effective au Congo, il faut que l'on procède à la permutation des services de l'État tels que l'ANR, la police, la DGM, des endroits où ils sont pléthoriques vers ces zones où le besoin se fait le plus sentir. »
Bon, je ne sais pas si on peut vraiment parler de pléthore dans les services de sécurité, hein. Donc je vois l'ANR, la police et même l'armée, hein. Dans ces services-là, on a vraiment, dans notre pays, on a besoin des unités. C'est vrai qu'il y a des coins où ils devraient être un peu plus, hein, plus nombreux, où ils ne sont pas assez nombreux. Mais de manière générale, je pense que dans ces services-là, nous n'avons pas beaucoup d'éléments par rapport à la couverture, par rapport à l'étendue du territoire. Il faut regarder les autres pays, comment ils se donnent le moyen conséquent, hein, pour pouvoir couvrir, assurer la sécurité. Parce que avec toutes les exigences modernes, la démocratie, les droits de l'homme, alors les éléments de sécurité doivent être bien entraînés, bien formés, mais aussi assez nombreux, bien équipés, mais assez nombreux aussi, hein, pour pouvoir tenir le coup.
Sénateur Ramazan Ibaya, il faut donner les moyens à la police, à l'armée, mais le projet de budget 2010, hein, est pratiquement le même que celui de 2009. Qu'est-ce qui va changer?
Écoutez, c'est bien que vous évoquiez le problème de budget qui, selon la presse, vient d'être déposé par le Premier ministre au Parlement. C'est à travers ce budget que nous verrons les intentions du gouvernement pour effectivement assurer l'autorité de l'État à travers le pays. Donc s'il veut réellement assurer la sécurité, il faut que des ressources conséquentes soient affectées à ce secteur de sécurité. Et il ne s'agit pas simplement de l'armée, hein. Ce que le professeur a dit tout à l'heure est tout à fait fondé. Il faut donner beaucoup d'importance au service de renseignement. La guerre de guérilla que mène la LRA, qui est toujours en place, qui n'a pas encore disparu, hein, bien que le gouvernement nous tout le temps qu'on a dessiné les bases de LRA, mais en réalité, sa capacité d'action, sa capacité de nuisance sur la population civile est d'autant plus forte que ce mouvement s'affaiblit, qui s'étend sur l'ensemble du territoire du Haut-Ouélé et surtout du Bas-Ouélé. Donc il faut que l'État réagisse rapidement en mobilisant les forces de l'ordre, l'armée, la police, mais aussi les services de renseignement, et je dirais même la population qui devait pouvoir informer, donner des renseignements à l'armée, aux services de renseignement. Ceci est très important. On a le sentiment, et ceci explique un peu même l'attitude de nos collègues de la majorité, les élus de la majorité, qui sont en contact avec la population, donc ils sont obligés aussi de dire le ras-le-bol que ressent la population. On a le sentiment que le gouvernement minimise les différents incidents qui se produisent. On apprend par exemple la semaine passée, dans la nuit de vendredi à samedi, on a enlevé des gens dans la ville, dans la localité de Diba, à environ 45 km de Hango. Et on a pillé, on a mis l'agglomération à sac. Et il n'y a pas eu de réaction jusqu'à présent. Alors, on a le sentiment que le gouvernement minimise ces incidents, le considère comme isolé. Et peut-être qu'il ne souhaite pas inquiéter la population, mais je pense que la meilleure façon de ne pas inquiéter la population, c'est de mettre en place un dispositif sécuritaire réellement dissuasif qui puisse réellement protéger la population. Ça, c'est élémentaire. Et donc, le budget qu'on dépose actuellement au Parlement, selon les ressources affectées aux services de sécurité mises en place dans les Haut-Ouélé et dans les Bas-Ouélé, nous montrera la volonté du gouvernement de mettre fin à cette situation d'insécurité qui dure depuis des mois, si pas des années.
Alors, toujours en ce qui concerne la restauration de l'autorité de l'État de la province orientale, nous allons nous rendre dans le Nord Kivu, où les responsables de la cellule de communication des opérations Kimia 2 dénoncent l'existence d'une administration parallèle dans certains coins du territoire de Rutshuru, à près de 75 km au nord de Goma. Ces responsables se sont exprimés ainsi lors de leur retour d'une tournée à Bunagana, l'une des zones anciennement contrôlées par le CNDP. Il y a même à ce sujet un auditeur, Damien de Rutshuru au Nord Kivu, qui dit « À Rutshuru, il y a deux tendances de l'ANR et de la DGM, celle du gouvernement et celle du CNDP, qui toutes fonctionnent au vu et au su des autorités provinciales qui jusque-là ne songent à aucune solution pour établir l'autorité de l'État. Faudra-t-il qu'un incident survienne pour que leur conscience soit interpellée ?» Honorable Dieudonné Bakungu.
Là, nous sommes au Nord Kivu.
Oui.
Effectivement, je suis élu du Nord Kivu. Et je pense que là, j'ai beaucoup d'éléments d'ailleurs, plus que ce que notre auditeur vient de dire. Vous savez, au niveau de Rutshuru, c'est bien que les gens ont dit que le gouvernement a récupéré la situation à ce niveau-là. Mais que ce soit les élus de Rutshuru, du Nord Kivu, nous sommes réunis à plusieurs reprises, la situation n'a pas changé de niota.
Qu'est-ce que vous entendez par la situation n'a pas changé?
Il n'a pas changé parce que jusque-là, c'est ce que je voudrais d'ailleurs dire ici, les camps les plus froids, par exemple, dans les territoires de Massissi, là où le CNDP a créé un autre territoire avec ses limites. J'ai même une correspondance à cela. On a nommé des administrateurs du territoire, ils font des correspondances et personne ne dit rien. Les barrières du CNDP qui existaient à l'époque sont revenues et ils reçoivent des taxes, de perceptions, tout ça. Et si vous voyez très bien, malgré le fait que le CNDP soit mué ou est devenu des éléments de phare d'essai, en tout cas, personne ne peut nous dire quand est-ce qu'il y a une remise de matériel militaire que le CNDP
arrêtés au niveau de nos forces armées. Vous voyez que, en quelque sorte, quelque part, on parle de l'armée qui a été réunifiée, mais en réalité, il n'y a rien de tout cela.
Voulez-vous dire qu'il y a manque de volonté politique?
Tout à fait. Soit, nous, les députés, par exemple, le député du Nord-Kivu, on a toujours dit que cette façon de faire, lorsqu'on constate que peut-être on n'a pas eu toute la force de bouter dehors la rébellion, qu'on fasse des scénarios qui arrivent à camoufler les choses et dire que voilà, la paix est revenue, alors qu'en réalité, c'est une occupation tacite de scène de paix qui est là. Si vous allez par exemple dans les territoires de Massissi, l'administrateur du territoire, elle est sécurisée, c'est une femme, sécurisée par la Monique. Parce que, de l'autre côté, l'armée qui prétendument est dite armée, constituée et par les éléments du CNDP, tous les officiers du CNDP, et qui commandent tous les fronts, et vous voyez que, quelque part, les habitants de chez nous, quand nous avions parlé de manque de confiance, ils ne comprennent rien. Les mêmes qui ont tué hier, qui ont violé, qui ont incendié des maisons, deviennent les gardiens. C'est ce qui complique un peu la situation dans le Nord Kivu.
Professeur Mbouéboua, c'est un autre cas de figure ici, hein, restauration de l'autorité de l'État, mais avec une administration parallèle.
Voilà, je crois que ce sont des situations qui arrivent souvent en période post-conflit. Lorsque vous avez une guerre qui se termine par des négociations politiques, des arrangements, en général, ce sont des situations qui peuvent arriver. Le plus important, c'est que maintenant, l'armée, la police, notre armée, puisse, n'est-ce pas, prendre des dispositions pour mettre de la discipline. Parce que des situations pareilles sont très dangereuses. Sont très dangereuses et à la fin, ça ne contribue pas à consolider la paix que nous voulons. Nous voulons que dans le Kivu, il y ait la paix véritable. Pas de blagues comme ça. Ça fait des années que la population subit des atrocités à cause des distractions dans ces genres-là. Parce que quand il y a des groupes parallèles qui opèrent dans la même région et qui sont autorisés à fonctionner, un groupe, une fois mécontent, peut monter des opérations et espérer les mettre sur le dos de l'autre, ou sachant qu'on ne saura pas établir de manière claire la responsabilité. À ce moment-là, vous voyez qui perd des frais sur la population. On ne peut pas accepter que les gens qui sont armés puissent, n'est-ce pas, fonctionner au même moment de cette manière-là, sans qu'on sache qui est le chef. Dans ce domaine-là, l'unité de commandement et la règle, le principe de base partout au monde. Donc nous ne pouvons pas essayer d'innover dans les mauvais sens chez nous.
Une fois de plus, ce sont les militaires, hein, les FARDC, qui ont dénoncé la situation.
Mais vous savez, parfois, des FARDC, c'est posé sur des éléments, hein, parfois des éléments qui sont de bonne foi, qui constatent que parmi eux, il y a des gens de mauvaise foi ou des mauvais chefs, et alors ils dénoncent. Je crois que c'est important que lorsqu'il y a des dénonciations pareilles, il y ait des enquêtes, que les autorités militaires prennent en main ces gens de dénonciations à y mettre de l'ordre. À y mettre de l'ordre, parce que quand des gens qui sont armés échappent au contrôle, vous comprenez qu'ils sont capables de tout faire. Ils ne sont pas mieux payés, mais ils ont des armes. Donc, ils sont capables de se servir sur la population.
Sénateur Raymond Ramazan Ibaya, il y a un auditeur Malunga de Bandundu-Ville qui dit « La double administration dénoncée à Rutshuru au Nord Kivu par la cellule de communication de Kimia 2 fait croire à une action louche pour nuire à l'action de nos vaillants soldats. »
Oui, mais on dit que la politique a horreur du vide, hein, et je pense que la force aussi. Si l'armée occupe l'espace, si la police occupe l'espace, on ne laissera pas de place pour le CNDP. Je connais un peu moins bien la situation dans le Kivu, mais je prends le haut et le bas où elle est, surtout le bas où elle est, où vous avez, par exemple, aujourd'hui, ce qu'on appelle les Mbororo. C'est quoi les Mbororo? Ce sont les éleveurs qui sont venus du Tchad, de la RCA. On ne connaît pas très bien les chiffres, mais c'est entre 20 et 25 000, peut-être plus, parce qu'ils continuent à venir. Eh bien, ces gens occupent de vastes territoires, de vastes étendues du territoire congolais, et depuis des années. Pourquoi? simplement parce que la police n'y est pas, l'armée n'y est pas. Et ils évoluent, ils occupent des prairies, ils occupent des territoires, ils amènent leurs bêtes, paîtres, s'abreuver dans des rivières et mettent en difficulté les paysans congolais sans que les forces de police congolaises ne puissent intervenir. Il y a un vide total. Donc tout ça me fait dire, et je crois que nous sommes d'accord avec les deux intervenants, qu'il y a de la part des pouvoirs publics une sorte d'indifférence tout à fait coupable. Il faut réagir rapidement et de façon énergique. Je ne dis pas qu'il faut chasser les Moros, comme le demandent les populations du bas où il est, mais il faut trouver une solution. Il faut arriver, ne fût-ce qu'à les dénombrer d'abord, à retirer les armes qu'ils ont par des RE, parce que c'est parfois jusqu'à 500-600 fusils. Ils sont armés jusqu'aux dents, c'est inacceptable. Donc, il faut retirer les armes et il faut les encadrer. Et il faut leur indiquer le terrain sur lequel ils peuvent mettre leurs bêtes. Si on ne peut pas, naturellement, les mettre à la porte, parce que ça, ce serait l'idéal, on ne peut pas laisser entrer les gens sur notre territoire sans qu'ils en aient obtenu l'autorisation. Mais si on ne peut pas les chasser, au moins il faut les encadrer, au moins il faut les dénombrer. Alors, en ce qui concerne les CNDP, je crois que c'est la même chose. Mais là, c'est plus complexe, évidemment, parce qu'il y a un arrangement qui a été trouvé entre le gouvernement et les CNDP. Pourquoi ce n'est pas appliqué? Ça pose d'autres problèmes. La situation est plus claire dans les bases où elle est. Nous avons l'insécurité qui est sémée par les éléments de LRA. Nous avons l'insécurité qui est imposée à la population par les Mororo. Il faut que le gouvernement, assez rapidement, envoie des forces de l'ordre et qu'on puisse assez rapidement neutraliser ces différentes forces qui sont source d'insécurité, d'inquiétude et de peur, parce que la population aujourd'hui, dans beaucoup de ce coin, moi j'étais à Isiro, j'étais à Bouta, j'étais pas très loin des Dingula, et bien la population vit dans la peur.
Merci, sénateur. Merci, sénateur. Juste avant de passer à la deuxième partie de cette émission, rappelez que le commandement des opérations des FARDC à Dungu en province orientale regrette la non-implication des autorités politiques dans la restauration de l'État dans les localités jadis occupées par les rebelles de la LRA. C'est notre thème de ce soir. Comment expliquer ce retard dans le processus de restauration de l'autorité de l'État et que faire pour un rétablissement rapide et effectif? Trois invités participent à cette émission. Raymond Ramazani Baya, sénateur MLC, Dudoni Bakungu, député national PPRD, professeur Mbwebo Akalala, politologue et professeur à l'Université catholique au Congo. Vous voulez réagir à cette émission? Voici le rappel de nos contacts.
Dialogue entre Congolais. Vous pouvez encore participer à cette émission en téléphonant au 081 890 66 78 ou encore par SMS au 081 05 15 738.
Les mesures sont déjà prises par le gouvernement central pour le rétablissement de l'autorité de l'État dans toutes les zones jadis occupées par les groupes armés. Cette annonce émane du ministre de la Communication et des Médias et porte-parole du gouvernement. Selon Lambert Mende, c'est l'exécution qui prend quelque temps, mais il affirme que dans peu de jours, la police sera très visible dans les zones concernées. Lambert Mende a été joint au téléphone par Guy Maté.
Il faut que rapidement, dès qu'une zone est pacifiée, sécurisée, que les services de police, que l'administration territoriale puissent prendre les choses en main. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la guerre est une calamité et que la pacification est un processus qui peut être laborieux. Nous parlons bien de Dungu, nous parlons de Masisi, nous parlons de Rutshuru. Et donc il faut le temps que des mesures soient prises, il faut les moyens pour acheminer les forces de police qui doivent absolument bivouaquer pour sécuriser les gens. Et donc, il y a toujours un gap entre le moment où l'armée prend des dispositions de pacification et le moment où l'administration civile peut s'installer. Mais l'essentiel, c'est que tout ceci est programmé par le gouvernement et que dans les jours à venir, l'administration territoriale sera au grand complet dans ces zones et les services de police seront également déployés avec l'équipement qu'il faut. Cela prend du temps. Mais nous sommes obligés de travailler avec les moyens qui sont à notre disposition et nous comprenons l'impatience aussi bien des militaires qui ont d'autres tâches que des populations qui ont besoin d'être protégées.
Honorable Dieudonné Bakungu, êtes-vous satisfait?
Disons que l'homme vit toujours l'espoir. Espérons que ce que le gouvernement vient de dire se réalise. Je pense que pour ce qui est de territoire de Masisi ou Alikale, dans le Nord Kivu, vraiment, le gouvernement, d'ailleurs c'est parmi les recommandations que nous avions données lorsque nous avions un jour interpellé un des ministres, surtout le ministre de la Défense, on avait demandé au ministre de la Défense de nous permettre toutes les brigades qui sont à l'Est. C'est-à-dire que ces brigades-là, vraiment, elles ne sont pas les bienvenues. La population constate que les mêmes qui ont commis ce genre d'atrocité, les laisser toujours dans le même endroit. Surtout, s'ils s'étaient même corrigés, peut-être que les gens allaient se dire, vraiment, c'est l'armée qui revient. Mais allez voir ce qui se passe, par exemple, dans les Masisi. Il y a des incendies des villages tout entiers. Imaginez-vous, lorsque vous vous posez des questions, est-ce que les FDLR interamouins construisent des villages dans les Masisi, dans les Walikale? Est-ce qu'ils ont des villages là?
Mais honorable Dieudonné Bakungu, il y a le programme de stabilisation des zones sortant de conflits armés Starek, hein, qui a été présenté au mois de juin. Ce programme a 6 mois et a pour objectif de sécuriser l'est de la RDC. Nous sommes au mois d'octobre maintenant, près de 3 mois, il ne reste que 3 mois. Mais qu'est-ce qui a été fait?
Voilà, justement, j'avais assisté à un film là, et il y avait un bandit qui avait presque qui tirait sur tout le monde. Et alors, un agent de la police est venu, heureusement, il était très vaillant, il a tiré sur ce monsieur, il est tombé. Maintenant, il y a les gens des droits de l'homme qui sont venus pour dire, mais pourquoi vous ne l'aviez pas arrêté au lieu de tirer sur lui?
Et qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Bon, je veux dire que lorsqu'on souffre, on a pris cette patience-là d'attendre le temps. Et si vous voyez un peu la situation du Kivu, c'est pas une situation d'hier. Lorsque vous voyez, par exemple, depuis toutes ces années, la guerre a commencé, bon, d'ailleurs, ça a commencé un peu dans les territoires des Masisi du côté de Kichanga. Vous voyez voir comment la situation, au lieu de s'amplifier, elle est en train de s'amplifier encore une fois. Si vous comptez aujourd'hui les gens qui sont déplacés, à partir du mois où on avait tenu la conférence de Goma, mais c'est extraordinaire. C'est tous les villages qui sont dans la forêt. Et d'autres, d'ailleurs, n'ont même pas d'assistance. C'est pourquoi nous plaidons pour ceci. Lorsqu'on parle des FDLR, par exemple, j'ai même suivi l'ambassadeur lorsqu'il a parlé des LRA.
Excusez-moi, honorable, nous sommes en train de parler de la restauration de l'autorité de l'État.
Tout à fait.
Et je voulais poser une question précise sur le Starek. Où en sommes-nous aujourd'hui?
En tout cas, comme vous voyez, la même question, je me la pose.
Professeur Mbouibo.
Moi, je pense que tout à l'heure, les sénateurs ont parlé du budget. Je crois même l'honorable a parlé, ils ont parlé du budget. Le gouvernement a déposé, le premier ministre est allé déposer le budget aujourd'hui. Il est important de rappeler que la restauration de l'autorité de l'État, c'est une question de volonté politique, d'abord, et cette volonté politique se traduit dans le budget. Il faut de l'argent, il faut que les éléments qu'on envoie là-bas soient mis à l'aise pour faire le travail correctement, que ce soit les éléments de la police, que ce soit les services de renseignement, que ce soit l'armée, que les gens qui vont travailler dans les zones à risque soient motivés pour faire le travail correctement. Et quand ils sont là-bas, qu'ils soient tranquilles parce qu'ils sont équipés, ils ont les moyens. Donc c'est très important. Le budget qu'on a déposé, on peut déposer des grands chiffres. Quel sera le taux d'exécution en ce qui concerne ces budgets-là? C'est ça les grands problèmes. Hein? Donc on va déposer, on va montrer qu'il y a un grand budget, il y a un grand budget pour la sécurité, mais est-ce qu'ils vont vraiment libérer ces budgets-là? Nous ne pourrons pas garantir l'autorité de l'État s'il n'y a pas de moyens. Donc c'est ça, à mon avis, les grands enjeux.
Mais professeur, par exemple, quand le président de la République signe cette ordonnance sur le Starek, c'est déjà un début de volonté politique.
Voilà, la volonté est là. Une fois qu'on a signé, il faut maintenant que de différents services publics comprennent qu'on a signé pour ces programmes et qu'il faut donner les moyens, libérer les moyens pour que ces programmes se déploient effectivement. Malheureusement, chez nous, on va bien signer, Mais au moment de permettre à ces services de fonctionner, vous verrez combien de tours ces gens-là vont faire au ministère du budget, au ministère des finances, pour avoir l'argent et fonctionner. Peut-être l'argent viendra après 6 mois, alors que le programme aura peut-être pris fin. Donc voilà, ça c'est dommage.
Sénateur Ramazan Ibaya, il reste 3 mois pour que le SAREC touche sa fin. Près de 3 mois après, avez-vous une idée de ce qui a déjà été fait?
Écoutez, vous avez déjà posé la question à l'honorable
Bakungu
tout à l'heure. Il connaît la situation mieux que moi. Je crois que il n'y a pas suffisamment de visibilité. On ne voit pas exactement les effets que cela produit. Maintenant, je ne veux pas être trop négatif et trop pessimiste. Je retiens des propos du ministre de la Communication. Que d'abord, il comprend l'impatience de la population et d'une partie de notre armée. Et je retiens également qu'il promet, donc je pense qu'il est au courant des opérations qu'il prépare, qu'il y a des mesures qui vont être prises dans le sens de sécuriser les populations de régions de l'Est. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut que ces actions, ces mesures soient énergiques, soient visibles, pas à d'autres homéopathiques, des petites décisions qu'on prend et qui ne s'appliquent pas. Comme ce que vous venez de citer, l'histoire de Starek, dont on ne voit pas les effets. Il faut que ce soit des mesures qui soient à la dimension du désespoir dans lequel la population vit actuellement. Il faut que le gouvernement apprenne à répondre de manière proportionnelle à la situation de drame et des tragédies dans laquelle les populations congolaises vivent dans l'Est, que ce soit le Nord Kivu, que ce soit les Haut-Ouélé ou les Bas-Ouélé.
Merci.
Ce qui est important.
Honorable Dieudonné Bakungu, Kakule de Butembo au Nord Kivu dit une seule voie pour restaurer l'autorité de l'État à l'Est du pays, c'est un changement total et intégral de la classe politique congolaise et ceci ne sera possible qu'en 2011.
Donc,
ils nous attendent au tournant.
Ils nous attendent au tournant. Moi, je pense que ils ont raison, parce qu'un élu du peuple, on voit dans un élu du peuple quelqu'un qui parle à son nom. Et je pense qu'au niveau de l'Assemblée nationale, nous avions pratiquement été au four et au moulin. Nous nous rappelons par exemple la période où nous étions à la conférence de Goma, la conférence de paix. Les députés étaient là et il y a beaucoup de choses que les députés avaient constatées que ça n'allait pas marcher avec la sécurité chez nous. Bon, mais imaginez-vous qu'il y a la séparation des pouvoirs. Il faut que M. Kakule et mon frère comprennent que les députés se trouvent à l'Assemblée nationale, au Parlement, c'est-à-dire pour légiférer et parler au nom de la population. Et le gouvernement, c'est pour exécuter et pratiquer. C'est lui qui doit faire tout ce que nous attendons.
Votre mot de conclusion, honorable, parce que nous attendons déjà la fin.
Bien sûr, vous aviez posé la question, que faire? Je pense que je vais terminer par ça.
Très rapidement.
J'ai parlé de la permutation des brigades, parce que vraiment, la population en a marre avec ce qui se passe là-bas. Procéder à l'installation des pouvoirs coutumiers qui existaient dans les temps, dans les Massissi, Walikale et Rutshuru. Et enfin, vraiment, je vais terminer. Surtout, je dirige ma question vers la communauté internationale, avec les FDLR. Il faudrait que vraiment la communauté internationale nous comprenne, parce que les FDLR sont venus dans le cadre de la communauté internationale qu'on nous aide à trouver un autre pays et recevoir nos frères FDLR pour que les Congolais restent vraiment en paix.
Professeur Mbouéboa, votre mot de conclusion.
Non, je souhaite vraiment que cette question de restauration de l'État devienne effective pour permettre à toute la République d'être administrée, d'être gérée par des autorités équipées et doter des moyens conséquents pour à la hauteur de leur mission et des attentes qu'on a vis-à-vis d'eux.
Sénateur Ramazan Ibaya, un mot aussi pour conclure.
Mais écoutez, je pense qu'on aura été tous sur la même longueur d'onde, hein. Donc le souhait est celui-là, que le gouvernement se réveille, qu'ils prennent dans le cadre de ce budget des mesures plus énergiques pour ramener la sécurité et rétablir l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. En tout cas, les députés et les sénateurs du Bas-Ouélé feront tout pour que le minimum requis pour ramener l'autorité de l'État dans ce district qui va devenir une province bientôt soit rassemblé par le gouvernement et accordé par le Parlement.
Merci à toute l'équipe de Dialogue entre Congolais qui m'a aidé à préparer cette émission. Kevin Côté à la réalisation, assisté de Guy Maté, Samuel Kachak, Martin Sebujango à la coordination, Eric Sidiaka à la mise en onde. Merci à tous nos invités d'avoir participé à cette émission. Au revoir.